Vous écoutez RMC. RMC, 19h20, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Bonsoir à tous. On y croyait fort. Toute la journée, on a pensé que Paris Peintre allait transformer la Sainte-Catherine en Saint-Valentin. Raté aujourd'hui, c'était la Saint-Richard. Pas Virenque, mais Carapace. Le Jaguar équatorien a d'un coup de griffe dans le final de l'étape fait s'évaporer tous les espoirs d'une victoire française. Pire, il a manqué 2 points à Valentin Paris Peintre pour ravir le maillot à poids de meilleur grimpeur toujours accroché aux épaules de Tadej Pogacar. On s'interrogera avec nos consultants sur la double stratégie du Français. Aujourd'hui, Poggi, le Slovène, tranquille, voit néanmoins ses coéquipiers tomber les uns après les autres. Après le virus d'Adam Yates hier, Brandon McNulty a abandonné aujourd'hui et Tim Wellens est arrivé in extremis 2 minutes avant d'être classé hors délai ce soir. Et si les UAE pouvaient vaciller dans le final demain et après-demain, leurs adversaires Evenepoel, Ayuso et Sexa sont-ils prêts à ce combat? Ça sera le thème de notre deuxième débat dans quelques minutes. Mais tout de suite, retour sur le sacre de la Locomotora del Carchi.
Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur la route du Tour. On est ensemble jusqu'à 18h comme tous les jours, jusqu'à dimanche, au terme de ce 113e Tour de France. Nous entamons aujourd'hui le triptyque alpin avec la moins dure de ces 3 étapes qui nous attendent entre Voiron, Heurcières, Merlet. 185 km au programme aujourd'hui et une grande bagarre qui a débuté quasiment dès le début de cette étape.
Louis Saugagnon, je vous en ai déjà parlé quand on était à Je vais pas vous parler de Louise.
À Mont-de-Marsan.
Belle étape à Montargis. Hein. Qui a gagné l'étape à Montargis, Maria?
Marsan, pardon.
La géographie, c'est pas son truc.
32 km à parcourir. 6 hommes en tête. Matteo Jorgensen, Richard Carapaz, Mauro Schmidt, Tobias Johannessen et Raúl García Piana. Et la principale chance française de victoire d'étape se nomme Valentin Paré-Peintre. On mise tout sur lui, le porteur du maillot à poids. Et le peloton est à 8 minutes 10. Et enfin, 2 équipiers de Tadej Pogacar sont à nouveau en difficulté aujourd'hui. Il s'agit de Brandon McNulty et Adam Yates.
Carapace qui se relève. On s'observe derrière. Valentin Paré-Peintre, Jorgensen et Mauro Schmidt. Tout le monde s'observe.
Mais il retourne. Il ne peut pas y aller cette fois. Personne qui va.
Richard Carapace est parti, l'équatorien, sans doute vers une victoire aujourd'hui à 3 km 400 de l'arrivée. Personne ne reverra Richard Carapace. Il a déjà mis plus de 15 secondes à ses poursuivre.
Et Valentin Paré-Peintre qui est vraiment en difficulté. Là, il n'arrive même pas à rattraper Jorgensen et Mauro Schmidt qui sont un peu plus loin dans la montée.
Le Jaguar, autre surnom de Richard Carapace, vainqueur ici. Il aura griffé plus fort tout le monde dans ce peloton. Il s'applaudit même et il serre le poing. Richard Carapace, très heureux évidemment de sa victoire, qui salue la foule.
Voilà, ça fait pchit pour la bagarre pour le général. On s'y attendait un petit peu, même si on aurait espéré que dans les derniers kilomètres, les derniers hectomètres, Paul Sexa, Soulini Martinez essaye de tester les autres, surtout Paul Sexa.
Voilà le résumé de cette journée. Il y a eu du pchit, il y a eu des victoires, il y a eu un peu de regrets évidemment, et notamment avec Valentin Paré-Peintre, notre Français. Toute l'équipe de l'After Tour est réunie pour analyser, pour disséquer cette nouvelle journée, cette première étape alpestre. Il y en aura 2 encore à venir. Il va se passer plein de choses. Christophe Cessieux, Jérôme Coppel, Jérôme Pinault, bonsoir.
Salut,
bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Salut, salut.
Bonsoir, Richard Virenque. C'est un prénom de vainqueur, Richard. Voilà, ça permet de gagner, en fait. C'est ça. C'était le secret, peut-être. Hein.
Ouais, mais quand la montagne s'élève, il est clair que les Richards se dressent. Écoutez, bonsoir à tous. Oui, belle étape aujourd'hui. J'étais content parce qu'il y a eu du sport hein, pour cette première étape. On va dire l'amuse-bouche du week-end.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un beau vainqueur. On regrette évidemment que ça soit pas un Français qui lève les bras aujourd'hui, mais Carapace a vraiment été supérieur.
Oui, il était supérieur. Bon, par rapport à Valentin Paré-Peintre, c'est une étape qui lui convenait plus à Carapace, plus puncher. L'école était plus roulant, donc il était plus en puissance, Carapace. Et Carapace l'a joué aussi finement. Il s'est concentré sur le dernier col, sur son attaque, que Valentin, ben, il a lâché beaucoup d'énergie dans les sprints, même si Carapace était toujours derrière. Et il a dû un peu être toujours en surrégime. Parce que Valentin, c'est le pur grimpeur, le poids plume. Lui, il s'envole dans les cols à, on va dire, à 10, 12%, 10%. Là, on n'était pas du tout dans ce domaine-là. C'était plus des cols beaucoup plus roulants. Donc, il s'est fait violence. Il a fait quand même une belle étape parce qu'il a marqué, il a fait le plein des points. Certes, il en manque quelques-uns, mais il a fait une belle étape aujourd'hui. C'était essentiel qu'il soit devant aujourd'hui. Pour le maillot à poids, c'est clair qu'on manquait d'une victoire française. On est passé, on a flirté avec. Et malheureusement, il faudra être patient encore demain.
On va revenir évidemment sur cette stratégie de Valentin Paré-Peintre. Mais on est obligé de rendre honneur à ce magnifique coureur, Richard Carapace. Il y a des garçons comme ça qu'on est à peu près unanime. On parlait de Mathieu Van Der Poel. On est d'accord aussi quand Wout Van Aert est là, Mats Pedersen, exactement. Richard Carapace, il fait partie de cette famille des coureurs qui font l'unanimité.
Ouais, parce qu'il a déjà ce caractère d'attaquant. Il a du panache, Richard Carapace. Il gagne jamais manière lambda, on va dire. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec Richard Carapace. Même aujourd'hui, il a dû aller la chercher tout au long de l'étape. Et puis, c'est un formidable champion. Giro, champion olympique, etc. Moi, j'adore ce coureur. Je trouve que... Après, je suis pas forcément, et ça, les autres, ils sont pour rien, mais je trouve qu'il a la classe sur son vélo. Ouais. Comme Mathieu Van Der Poel, il est bien posé.
Dans ce style.
La chaussette est toujours blanche, toujours au bon endroit sur le mollet, il dégage de la puissance.
C'est la marque de la lessive, c'est autre chose.
C'est un bel athlète, il est musculeux. Et puis, il a cette humilité des coureurs sud-américains. Ouais. On aime beaucoup ces coureurs-là qui ont toujours une histoire, de belles histoires à raconter. L'histoire de son papa qui a trouvé une bicyclette qu'il a mis dessus. Il a perdu sa maman en début d'année. Il a beaucoup d'histoires. Il y a une vraie, c'est chargé d'histoire dès qu'il gagne, ce garçon-là. Et dans son pays, c'est une star, hein. Il part s'entraîner. Il est escorté par une moto. Il a derrière du monde parce que il a peur notamment aux enlèvements. Enfin, c'est quelqu'un de très, très important dans son pays. Et quand on le voit gagner aujourd'hui, il est joyeux, il est heureux, mais on sent qu'il porte quelque chose de plus qu'une simple victoire d'étape sur le Tour. C'est ça qui est chouette aussi.
Christophe, ouais. tu, vas-y, Jérôme.
Ouais, et puis pour nous, juste pour finir sur ce que dit Gégé, c'est que nous, en Europe, c'est plus, entre guillemets, facile de faire du vélo et d'être pro. Faut s'imaginer qu'en Équateur, pouvoir percer, faut partir de ton pays, aller dans un pays où tu parles pas trop la langue, tu dépayses complètement. Dire, lui, il vivait à 3000 mètres d'altitude, il se retrouve en Espagne. Alors, heureusement, c'est déjà l'Espagne, mais nous, tu vas trouver une équipe. Au pire, tu vas en Bretagne, tu vas en Italie. Enfin, tu restes en Europe. Tout ça vaut pour les Australiens aussi, hein, par exemple, qui doivent traverser le monde pour venir chez nous. Mais en Australie, ils ont déjà plus la culture vélo. En Équateur, ils n'ont pas du tout la culture vélo. Donc déjà, pour arriver chez les pros, c'est quelque chose.
Ils n'ont pas la culture vélo. Pourquoi en Colombie, il y a une vraie culture vélo, en Équateur, qui est un pays voisin, c'est pas du tout la même culture.
Mais l'Argentine n'a pas non plus, par exemple, une grosse
culture. Plus bas.
Mais l'Amérique du Sud, en manière générale, mais c'est pas parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment de coureurs qui portaient le cyclisme, tu vois, qui donnaient envie aux jeunes d'aller faire du vélo plutôt que du foot ou autre chose. Narvaez, ils sont pas copains les deux d'ailleurs, pas du tout copains.
Par contre, ils sont très forts tous les deux.
Ouais, ils sont très forts tous les deux.
Ils sont, il y a jamais eu par exemple d'équipe professionnelle équatorienne.
Il y avait
Café des Colombia qui a regroupé ces Colombiens qui galéraient un peu chacun en pensant qu'en étant ensemble avec Lucho Herrera à l'époque, allaient faire des exploits. Et ils l'ont fait. Et c'est cette génération de Colombiens qui a amené la suite des Colombiens et notamment des Quintana, etc. Là, il n'y a pas de passif. C'est un garçon dans son coin qui vient avec une ferveur dans le pays voisin. Et c'est encore peut-être pire quand tu as une ferveur pour un sport dans un pays voisin et que toi tu fais le même et que t'es incognito. Donc c'est vrai que derrière la victoire de Carapace aujourd'hui, il y a un immense message et puis de la ténacité parce que il a essayé 2500 fois depuis le départ du Tour et il est enfin récompensé.
Et d'ailleurs, il n'avait pas gagné encore cette année parce qu'on le rappelle, il a eu son début de saison tronqué par le décès de sa maman. Et là, il faut attendre la 18e étape du Tour. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup essayé. Et puis c'est aussi une victoire d'équipe parce qu'il n'est pas tout seul à se montrer depuis le début de saison.
Non, son équipe, elle est de toute façon très très forte et elle est très bien constituée, cette équipe IF. Et hier, on disait, rappelez-vous, je disais, on gagne des sprints. On défendait un peu le côté sprinter et nous, on ne gagnait pas parce qu'on fait des vrais choix. Cette équipe IF, elle pourrait jouer sur plusieurs tableaux. Elle pourrait se dire, bah, tiens, Richard, il peut faire dans les 7-8 premiers du classement général. Bah, ils n'ont que des garçons qui peuvent tous, Asgreen, Valgren, Carapaz, Baudin, Benili, tous ces garçons-là peuvent gagner des étapes. Et ils se donnent la chance d'en gagner en faisant comment ? Ça pétarade dans tous les sens. Et une fois qu'on est devant, on joue le collectif. Mais avant, il n'y a pas un énorme collectif. Rappelez-vous quand même qu'au début de l'étape aujourd'hui, qui est-ce qui a verrouillé la course pendant 25 km pour arriver au pied groupé ? C'est l'équipe.
Bien sûr. Et ce garçon, on le disait pendant le direct, des 6 qui étaient devant, c'est celui qui avait le plus gagné. Il était à 24 victoires. Il est à 25. Et puis, on n'oublie pas son titre olympique et la ferveur dans son pays.
Le retour de Carapaz après son succès, d'abord au Giro, qui en a fait la plus grande star sportive de son pays. Et ensuite, lorsqu'il a été sacré champion olympique, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de fans qui l'attendaient à l'aéroport. Les pompiers avaient fait une arche d'eau autour de la piste. La tour de contrôle lors de son succès au Giro avait été décorée en rose. Ça avait été vraiment un truc de dingue. Et il faut savoir que pendant les étapes du Giro ou du Tour de France, lorsque Carapaz ou Narvaez sont en place, la vie s'arrête, notamment dans la province dont il est originaire, qui est au nord de la Colombie, au nord de l'Équateur, proche de la Colombie. Tout s'arrête. La vie s'arrête pour regarder Richard Carapaz à la télé ou Narvaez s'imposer. Et là, je pense que ça va être un jour de fête nationale demain ou ce soir en Équateur.
Pays-là, il est tellement idolâtré chez lui et un homme important que ce serait pas surprenant qu'un garçon comme Richard Carapaz finisse Premier ministre ou président de la République. Non, mais c'est à ce point-là parce que il est champion olympique équatorien.
Bien sûr.
On les compte pas sur.
Non.
Hein, il y en a pas tellement. Et puis, il fait vibrer parce que ça reste quand même un des sports les plus suivis à la télévision parce que là-bas, c'est resté comme c'était chez nous dans le temps. Le sport des campagnards, le sport des pauvres, le vélo.
Sûr. On l'écoute, Richard Carapaz, très ému, évidemment, à l'arrivée.
Ça a été une journée très spéciale. Pour moi, gagner de nouveau ici sur le Tour représente énormément. C'est une victoire qui nous a coûté beaucoup d'efforts. Au final, c'est une très belle étape que j'ai dédiée à ma famille. Je crois que c'est ce qui me procure le plus de satisfaction, savoir que tout le travail que j'ai accompli peut être récompensé de cette manière. Nous avons déjà essayé à plusieurs reprises, mais jusque-là, ça n'avait jamais vraiment fonctionné. Aujourd'hui, en revanche, ça a été une journée vraiment difficile. J'ai été très attentif lorsqu'un mouvement un peu inhabituel s'est produit avec Quickstep qui a attaqué avec 3 coureurs, j'étais prêt. Je pense que ça a finalement été une attaque décisive, celle qui nous a permis d'intégrer le groupe de tête. Ensuite, je savais que l'arrivée se jouait dans une montée difficile, un terrain qui me convient très bien. J'ai attendu le bon moment, j'ai patienté, puis j'ai tenté ma chance à 2 reprises. Et au final, pouvoir savourer cette victoire, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Le malin Richard Carapaz, effectivement, aujourd'hui vainqueur. Malin parce que, on l'a dit pendant cette étape, Jérôme Coppel, il se plaçait toujours dans la même position dans la roue de Valentin Paré-Peintre qui à chaque fois prenait les points pour le classement du meilleur grimpeur. On s'est dit, mais il peut pas changer de stratégie, il peut pas essayer autre chose. Alors à un moment, comme Valentin Paré-Peintre, sur une démontée, était au milieu de la route, il regardait à gauche, à droite, il a failli le passer. Néanmoins, à l'arrivée, je suis désolé, c'est lui le plus malin. C'est lui qui a la victoire d'étape et c'est pas lui. Alors il n'a pas le maillot de meilleur grimpeur, mais Valentin Paré-Peintre ne l'a pas non plus.
Oui, alors il a été, alors c'est facile à dire après qu'il a été le plus malin, on reviendra sur la stratégie de Valentin après, mais Richard Carapaz, il a été malin toute l'étape et c'est presque l'équipe Soudal Quickstep qui lui permettent d'aller gagner l'étape parce qu'il y a une échappée qui se forme, il est pas dedans et c'est là que Stuyvesant et Vervec emmènent Valentin Paré-Peintre et là où il est malin Richard Carapaz, c'est qu'il a pointé qu'un homme aujourd'hui et qu'une équipe, c'était Valentin Paré-Peintre et la Soudal Quickstep. Il a bien compris qu'il y aurait pas une échappée sans Valentin Paré-Peintre, que ses coéquipiers allaient tout faire pour le remettre dedans. Et en fait, c'est eux qui ramènent et Valentin et Carapaz pas loin de l'échappée. Après, c'est tous les deux qui font le travail pour vraiment revenir devant. Et ensuite, il a pointé que Valentin sans faire trop d'efforts en haut des bosses. Il a essayé d'en garder un petit peu pour la dernière montée. Je sais pas, c'est vraiment les efforts qui ont coûté la victoire à Valentin. Valentin, les efforts en haut des bosses. En tout cas, lui en a fait un petit peu moins, il s'est contenté de suivre. Et après, la dernière montée lui convenait très bien. Et avec la puissance qu'il a et la forme qu'il affiche depuis le début de ce tour, bah, il n'y a pas eu match, quoi. Mais à la limite, pour Valentin, vaut mieux exploser comme il a fait, que s'accrocher, se faire bateau sprint, par exemple, par Carapaz. Alors oui, pour le maillot,
non, il aurait pris le maillot, etc.
Mais la déception, et on écoutera sûrement Valentin après, je crois pas qu'il a une grosse déception à voir, Valentin Paré-Pinte, aujourd'hui.
Richard, est-ce qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre et qu'il aurait peut-être dû faire un choix aujourd'hui?
Je pense qu'ils ont bien couru. Il est tombé tout simplement sur un Richard Carapaz qui était supérieur à lui dans la dernière demi-heure. Parce que Valentin, il a tout fait juste, hein, de se faire parachuter dans la bonne échappée alors que tu es pas. C'est Carapaz qui a eu le nez, hein, qui a suivi le mouvement. Après, ils ont collaboré tous les deux, mais on le voyait. Quand on voit Valentin, c'est un petit gabarit, léger, très fin. Quand on regarde Carapaz à côté, voilà, c'est du massif, c'est un peu comme un Paolo Bettini, et il y a pas photo dans ce final. Je pense qu'on aurait eu un col d'arrivée comme le Mont Ventoux ou l'Alpe d'Huez. Carapaz, ça aurait été une autre histoire, mais c'était pas le cas. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'était ceux qui veulent faire le maillot à poids. Il fallait à tout prix sortir la tête et aller faire la journée devant. C'est ce qu'ils ont fait tous les deux. Je pense que Carapaz aujourd'hui, il était supérieur à Valentin dans le final et ça s'est vu et c'est bien comme ça. Après, c'est dommage que notre coureur français, c'est fait sauter, quoi.
Et oui, et qu'il n'a pas réussi à finir les trois premiers pour aller chercher ce maillot à poids. On écoute Valentin Paré-Peintre à l'arrivée aujourd'hui, pas trop déçu effectivement.
C'était une bonne journée du point de vue du maillot à poids. Je me suis vraiment battu à la fin. C'est aussi ce qui me poussait à me battre toute cette dernière montée pour aller prendre le plus de points possible. Alors, je me suis bien rapproché, donc on peut encore y croire. Et j'espère que je vais bien récupérer pour y retourner demain. Il y aura un peu moins de parties plates.
Est-ce que tu vas encore être à l'avant demain, Valentin? Ça sera l'objectif?
Ouais, c'est ça. Sur les deux jours qui restent maintenant, l'objectif, c'est d'être à l'avant de se battre pour le maillot. Ça va être difficile face à Pogacar, difficile face à Carapaz, mais là on lâche rien, on va se battre jusqu'au bout.
On lâche rien, on va se battre jusqu'au bout. Voilà les mots de Valentin Paré-Peintre. On rappelle, Jérôme Pinault, demain, il y a une arrivée à l'Alpe d'Huez, donc classée en hors catégorie, c'est 20 points. Ça sera pas simple, forcément, ça veut dire aller chercher la victoire d'étape. On sait que ça va bagarrer aussi, très certainement, pour le classement général. Est-ce qu'il peut espérer finir devant Tadej Pogacar sur les champs dimanche pour ce classement?
Pour ce classement,
ah, oui, pas pour le maillot
jaune.
Oui,
oui, oui, parce que demain on part dans le col Bayard. Donc je pense que Valentin va bien gérer sa montée. Il y a pas de raison. En dernière semaine, on a toujours les mêmes devant. On part dans le col Bayard, on enchaîne avec le col du Noyer. Attention, un tas de fumier le col du Noyer. C'est très très difficile. C'est court, mais c'est très dur.
C'est pour ensuite, lui. Ça lui correspond.
Donc c'est pour lui. Donc c'est des pentes pour lui.
Première catégorie.
Il va se projeter devant. 10 d'accord. Points. Il sera donc toujours en tête au col d'Ornon. Au col d'Ornon, il va refaire des points. Ensuite, il y a l'Alpe d'Huez. Est-ce que vous êtes sûr, vous, que UAE est en capacité de ramener sur une échappée qu'aura pris 5-6 minutes dans l'Alpe d'Huez, avant l'Alpe d'Huez? Moi, je crois pas. D'un côté, il y a des malades. De l'autre côté, on dit il est pas malade, mais il récupère. Mais il finit à 2 minutes des délais. Peut-être que demain, l'échappée peut aller au bout dans l'Alpe d'Huez. Et même si elle va pas au bout, tout le monde ne reprendra pas Valentin s'il est dans l'échappée. Et le jour d'après, ils sont incapables de gérer tempo une échappée qui partirait dès le premier col. Il y a deux hors catégorie. Valentin va reprendre des points. Je crois qu'il y a 70 points à prendre si t'es dans l'échappée samedi.
Samedi, ouais.
Évidemment que c'est faisable. Il faut pas qu'il pète. Il faut qu'il récupère. Mais on a bien compris dans son interview d'aujourd'hui, il a perdu l'étape, mais il est très content parce qu'il a fait un rapproché au maillot à poids. L'objectif, il faut en avoir un dans la fin du tour. C'est de ramener le maillot à poids à Paris. Et à ce petit jeu-là, oui, il est, pour moi, l'un des favoris, plus que Pogacar, à moins que Slovène nous fasse des grands numéros, mais j'y crois pas trop.
Et mais à ce petit jeu-là, Christophe, il n'y aura peut-être pas de victoire d'étape. C'est-à-dire qu'il va faire le choix du...
Non, mais il n'y a pas que lui pour gagner les étapes françaises.
Ah oui, il y en a plein. C'est vrai qu'on en a plein des victoires françaises. On en parlait dans un instant. Il n'y en aura pas
avec... Pour gagner dans les deux prochains jours, il y en a d'autres. Il y en a moins, il y en a d'autres.
Ouais, mais bon, il y en a d'autres qui sont aussi le cul entre deux chaises, comme les.
Non, mais Denis Martinez,
on parlait de Denis Martinez, on l'entendait.
Paul Sexas, voilà, c'est
quoi. Bah, oui, mais ils ont aussi le classement général, le maillot blanc d'un côté, Denis Martinez, la place dans le top 10, Valentin Paré-Peintre, les poids ou la victoire d'étape. En fait, ils sont que trois
aujourd'hui.
Les fesses entre deux chaises.
Oui, mais aujourd'hui, vous me faites rire. Valentin Paré-Peintre, selon vous, la probabilité qu'il ait un maillot à poids, elle est de combien de pourcents?
Quoi,
50 maillot à poids à Paris.
50-50.
33
avec Carapace. 33, bah ouais. Eh oui.
Et combien de pourcentage pour qu'il gagne une étape?
Beaucoup moins.
Ah 10, bah voilà.
10,
donc,
ouais.
Donc il faut viser celle où t'as le plus de chance.
Oui.
Ouais, ouais. Le maillot à poids.
Oui. Donc on fait une croix sur les victoires
avec
d'étape françaises.
Oui.
D'accord. Bon, après,
si on en a un sur le podium, maillot blanc,
et avec
maillot
Lenny Martinez aussi, avec Lenny Martinez aussi, on fait une croix.
Ah bah non.
Moi, ça, on fait pas la croix.
Valentin Paré-Peintre. Bah, demain, Lenny Martinez, demain et après-demain, s'il prend un peu d'avance.
S'il veut rester dans le top 10, il faut pas qu'il prenne trop de risques.
Ouais, c'est pas fou.
Richard, on va vivre un événement dans ce Tour de France. 1999, 1926, 2026. Il y aura pas de victoire française.
Écoutez, on n'est pas encore à Paris. Vous avez vu aujourd'hui, hein, donc, il y a que ceux qui tentent, qui sont récompensés. On a flirté avec la victoire. Il nous en a fallu tomber sur un os Carapace. Je pense que demain, il y aura des opportunités pour l'échapper. Je suis d'accord avec Jérôme Pinault qui disait que les UAE vont avoir beaucoup de mal à gérer pour l'arrivée. Donc demain, c'est une échappée qui va aller au bout, qui va gagner à l'Alpe d'Huez, un coureur d'échappée. Et c'est là où il faudra être costaud. Valentin sera sûrement devant. Ça sera mieux pour lui. Il y en a d'autres qui seront peut-être devant. Donc, je pense que pour parler de Paré-Peintre, le maillot à poids, il est bien parti parce que il fallait être devant aujourd'hui, avoir les jambes. Il les a. Certes, il est tombé sur un os. Demain, il sera encore à l'attaque. Donc, il faut que les Français, ceux qui veulent gagner une étape, se lancent dans le combat. Mais ça va tellement être dur. Donc, ça va être l'état de fraîcheur qui va primer. Et c'est là, c'est bien compliqué par rapport à ça.
Moi, je suis en train de remonter
de lister
toute la start list et les noms des Français. Je vois pas. Peut-être Bodin. Peut-être
99. Bodin, mais... on n'a pas fait Fanny Chou Blanc en français parce que je gagne à Morzine. Je m'étais fait Armstrong et Ulrich dans Jouplane. Vous vous rappelez pas? Et Race, il était parti dans un mur.
On va vérifier ça. On va vérifier.
Ah oui,
ça
non, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais avec Paul Thier.
Ah oui, mais ça fait des années qu'on dit qu'il y a deux années.
Non, mais c'est vrai que ça date. Mais bon, voilà. Non, mais pour parler des 99,
on va se replonger.
En 99.
Non, je crois pas. Hein.
Troisième, deux fois sixième, troisième. C'était pas en 99.
Non, mais non, je te parle d'étape.
Oui.
Non, il n'y a pas de victoire d'étape française en 99, Richard.
Non.
Bon, je sais bien que c'était loin, mais tu vois.
Tu remportes la 16e étape en 2000, la 14e étape en 2002 et la 7e étape en 2003. Mais en 99,
ah oui,
c'est en 2000 que tu gagnes à Morzine.
Ah oui, oui. Et c'est en 99 que je prends le maillot à poids. C'est ça?
Ouais.
Ah, c'est voilà. Donc, j'ai confondu.
Peut-être ce qui va se passer.
Voilà. Entre nous, entre le maillot à poids et victoire d'étape, les deux sont bons à prendre, hein. Donc, on est d'accord.
Je vais pas, forcément, déjà toujours défendre les coureurs français. Bien sûr qu'on aimerait une victoire d'étape, mais faut regarder aussi la photo plus large, en fait, de ce qui se passe. Déjà, on peut mettre des guillemets parce que Bruno Armirail est quand même chez Visma Lisebike. Ils ont gagné le chrono par équipe. Non, ça compte pas?
Non,
un Français chez eux, ça compte pas. D'accord.
N'essaye pas.
Ça, j'essaye pas.
De toute façon, je vous connais.
Alors, moi, je peux te dire que j'ai fait deux d'un contre-la-montre par équipe à Nice. Si j'avais gagné le chrono par équipe, j'aurais dit partout. J'ai gagné l'étape du Tour.
T'étais belge, hein. T'étais français.
Non, mais. J'ai jamais été belge.
Blague à part, si on prend Décathlon CMA-CGM, par exemple. Décathlon CMA-CGM, par exemple, qui ont Paul Sexas, peut-être que Nicolas Prodhomme aurait été une de nos meilleures cartes pour gagner une étape.
Non, mais il peut pas. Mais dans ces cas-là, on peut refaire tous les films.
Bah, bien sûr.
Alors, tiens.
Non, mais on essaie.
Il y a un garçon.
Non, mais on va pas dire, ils ont pas gagné. Faut savoir pourquoi aussi. Peut-être on n'a pas de
vision.
Bah, voilà. Et
je vais
faut
vous
les
en
chercher,
donner une.
Faut pas les
je vais
donner,
vous en donner une explication. Je vais t'en donner une, Jérôme. Écoute bien. Il y a un garçon sur qui j'aurais misé pour une victoire d'étape, par exemple, demain, et je peux pas le faire. On écoute Kevin Vauclin.
Sensation de merde. Je suis vraiment pas bien là. Je pense que j'avais mal à la tête et tout là. Je pense que je commence à être malade. J'ai senti cette nuit, déjà hier sur l'étape, ça allait pas fort à la fin. Mais là aujourd'hui c'était horrible. Franchement, ça roulait vraiment vite au début, je me suis vraiment battu avec moi-même. Au moment des sensations vraiment pas bonnes et c'était une grande étape hein, quand même, donc c'était long. Donc c'est dommage, ça fait chier d'enchaîner toutes les choses qui vont pas quoi. La chaleur a aussi beaucoup joué sur le physique et on en paye aussi les frais. Et voilà, et puis après pour ma part, je suis déjà arrivé en mes formes, donc c'était déjà dur de courir après la forme. C'est à des moments c'est revenu et voilà, mais bon, je pouvais pas espérer beaucoup mieux non plus. Faut être réaliste, hein. Le corps humain, on peut pas le. Durant un Tour de France, on peut pas non plus devenir stratosphérique et revenir à son niveau.
Et oui, c'est dommage parce qu'à un moment on y a cru, hein, Richard. Était mieux et puis là, à nouveau, il est malade.
Ouais, c'est vrai que j'avais espéré, j'ai vu un sursaut, mais là, avec ce qu'il dit, en plus, qu'il attend demain et après-demain. Je sais même pas s'il va finir le tour, hein. Donc ça va être compliqué parce que l'enchaînement de l'étape de demain, ça va rouler aussi très vite. Et le col Bayard, hein, je connais très bien. Hein. Par contre, quand on va avoir la jambe demain, je vous parie devant dans le col Bayard au sommet, il y a déjà Carapace qui est déjà là devant et Paré-Peintre. Les deux seront tous les deux devant demain dans le col Bayard. Ça c'est une certitude.
Avec Johan Essen, très probablement.
Ouais,
aussi.
C'est à la jambe.
Certainement, Timen Arensman. Ça va être les mêmes, hein. Ça va être
les mêmes. Tous là.
Moi, c'est juste une histoire à vous raconter. C'est 2013.
Allez, on finira sur ça, Jérôme. Vas-y.
2013. 18e étape. Il a fallu attendre la 18e étape pour gagner une étape pour les Français. Vous vous rappelez? L'Alpe d'Huez. Ah, tiens donc. Et c'était Christophe Riblon.
Double ascension.
Qui aurait misé sur Christophe Riblon pour gagner à l'Alpe d'Huez cette année-là? Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Et on rappelle la victoire de Laporte aussi, c'était en 2000, il n'y a pas longtemps, Christophe Laporte qui s'impose lors de la 19e étape, donc exactement. C'est demain. Là.
Oui, bien sûr, mais de toute façon, je vous connais, jusqu'à Paris, vous allez me dire, mais possible, hein, à Paris, avec comme ça ne sera pas, peut-être pas une victoire au sprint, je vous connais
abandon
par cœur.
Abandon de Christophe Cessieux, abandon à l'instant de Christophe Cessieux.
Non, je n'y crois plus.
J'y viens plus.
Il y croit plus.
Mais je dis c'est terminé. C'est pas très grave.
Yos, on rentre à Paris.
Si Paul Sexas monte sur le podium, si Lenny Martinez...
Oh, ça y est, tourne sa veste. Non, mais moi je suis désolé. S'il n'y a pas de victoire d'étape, ça sera historique.
Largement. Ça compense
en un
largement.
Siècle. Ouais, mais ça sera arrivé trois fois et on aura vécu ça. On aura vécu ça. Mais demain, dans le col Bayard, je vous rassure, sans peur et sans reproche, il y aura un Français. On verra ça demain. Allez, on fait une pause. On se retrouve dans quelques instants dans l'After Tour.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Deuxième tiers-temps de l'After Tour. Et si les adversaires de Pogacar partaient à l'attaque de cette équipe UAE diminuée, on le rappelle, McNulty a abandonné aujourd'hui. Yates était tout près lui aussi de l'abandon hier. Il est arrivé à une demi-heure de la tête de course aujourd'hui. Tim Wellens, lui, deux minutes seulement avant d'être classé hors délai. Mais que se passe-t-il dans cette équipe UAE? On va évoquer la situation des équipiers de Tadej Pogacar dans un instant avec toute l'équipe de l'After Tour. Mais Christophe, on redonne les classements. Victoire d'étape aujourd'hui, on vient d'en parler pour Richard Carapace, quatrième Valentin Paré-Peintre. On jette un coup d'œil sur le classement de l'étape et puis bah, les autres classements aussi parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes.
Choses qui ont bougé. Donc tu l'as rappelé, la victoire de Carapace qui s'impose devant Mauro Schmid, un deuxième place consécutive plus une victoire d'étape. C'est quand même un sacré tour que fait le Suisse de la formation Jayco Alula. Le troisième, c'est Jorgensen, coéquipier de Vingegaard, qui tente de faire ce qu'il peut avec ses moyens. Il termine à 45 secondes derrière Carapace. Le quatrième, donc Valentin Paré-Peintre. Johan Essen suit un peu plus loin. Et Lenny Martinez, lui, termine huitième. C'est lui qui règle en quelque sorte le peloton maillot jaune.
Ils étaient une douzaine, hein, ils n'étaient pas nombreux.
Devant Evenepoel, devant Pidcock, G4 est également dans le coup. Ayuso, Pogacar, bref, ils sont tous là. Nicolas Prudhomme également, le coéquipier de Paul Sexas. Ça, c'est pour l'étape. Le classement général, lui, n'a pas beaucoup bougé puisque Pogacar est évidemment toujours en tête. 4 minutes 32 d'avance sur Evenepoel. 6,51 sur Del Toro, c'est que ça c'est toujours 4e à 7 minutes 11. Lenny Martinez toujours 7e, Jegat 9e. Le seul qui fait un bond, c'est Richard Carapace qui gagne de rang et qui est désormais 10e au classement général. Le classement du meilleur grimpeur, là, on l'a dit, on est passé tout près d'un changement de leader.
C'est très serré.
Il a manqué 2 points, Valentin Paré-Peintre. Il est toujours dominé par Pogacar, 70 points. Paré-Peintre suit à 1 point et Richard Carapace est à 63 points. Donc là, ce sera très serré. Le quatrième. deuxième, ou beaucoup plus loin, c'est Evenepoel. Le classement par points, parce que là aussi, on a eu une magnifique bagarre avec un héros danois qui s'appelle Mats Pedersen. Hier, on disait que la bagarre pour le maillot vert allait sans doute se régler sur les Champs-Élysées. Eh bien non, il a décidé d'attaquer aujourd'hui. Il a réussi à rallier le sprint intermédiaire après avoir franchi deux cols. Franchement, chapeau, Monsieur Pedersen, qui ce soir est en tête avec 470 points. Philipsen est désormais plus loin, 445 points. Ça s'est peut-être joué aujourd'hui.
Il était à 7 points. Il est donc à 32 maintenant. Ouais, voilà. Et est-ce que, juste petite question là-dessus, messieurs, demain le sprint intermédiaire, il est au Perrier. Alors c'est vrai qu'il y aura le col du Noyer au début. Si des fois ça montait pas trop vite, ce col du Noyer, est-ce qu'on peut imaginer que Mats Pedersen enterre définitivement l'histoire du maillot vert?
Oublie, ça va monter demain. Très vite. L'étape fait 127 km. Bah oui, les deux premiers cols. Non, là demain c'est pas possible.
Le col du Noyer, t'as pas monté aussi dur aujourd'hui en début de course. Hein.
Ça sera.
Ça va direct le col Bayard. Tu franchis la ligne de départ et boum.
Ah bah direct. Et puis il y a que 127 km. Hein. Ça c'est les étapes les plus dangereuses, hein, les plus difficiles souvent pour les coureurs.
Richard, on voit cette équipe UAE quand même un petit peu vaciller. C'est compliqué. Il y a un virus. Alors de façon surprenante aussi, on s'aperçoit que ça a l'air d'aller plutôt bien pour Del Toro et Tadej Pogacar, qui font des checks, qui font des hugs, qui ne portent pas de masque. Est-ce que malgré tout, il y a peut-être une opportunité pour les adversaires?
Ah oui.
Est-ce qu'il faut essayer?
Pour moi, elle est énorme, l'opportunité. Vous imaginez, on est dans deux étapes clés du Tour de France, à la fin du Tour, et on comprend pourquoi l'attitude de Pogacar avec Rinko va peser. Heureusement qu'il a eu cette attitude il y a quelques jours, parce que imaginez-vous qu'il a les Boras contre lui, parce que les Boras, même s'ils ont perdu un peu des éléments, ils ont quand même une équipe soudée. Oui, pour moi, il y a une vraie opportunité à jouer avec Pogacar, même s'il a de l'avance. On gagne le Tour de France avec une équipe. Certes, ils étaient très forts pendant deux semaines, et là, eh ben, il est arrivé ce qu'il arrive. Donc, j'espère que les autres équipes l'ont vu. En tout cas, il y a une équipe. C'est l'équipe française Décathlon CGM.
CGM.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, a les clés pour faire sauter le verrou et les mettre peut-être en difficulté. Mais bon. Il faut le faire assez loin de l'arrivée pour qu'il soit vraiment esselé, le maillot jaune. Mais en tout cas, je pense qu'ils doivent être quand même inquiets dans cette équipe, même s'ils ont 4-50 d'avance. Il faudrait pas que Rinko soit un peu plus gourmand qu'il est, vous voyez, comme il est deuxième, qu'il se commence à rêver, se dire mais attends, je peux peut-être gagner le tour moi, parce que s'il se met à le penser, il faut qu'il y ait de la course. Il va y en avoir demain, mais en tout cas, je pense qu'ils doivent être inquiets de côté de l'équipe à UAE.
Justement, ce départ, Jérôme Coppel demain, Col Bayard, on le disait, et Col du Noyer. Il faut éliminer tout de suite les équipiers de Tadej Pogacar, ceux qui sont un peu sur une cuisse.
Oui, bah ça va se faire un peu naturellement parce qu'il y aura de toute façon la bagarre pour prendre l'échappée. Mais c'est vrai que on a perdu McNulty, Vermeersch avait pas l'air top, Tim Wellens tu as dit 2 minutes des délais, Adam Yates pas top. Potentiellement, tu peux en perdre déjà 3 de coéquipiers de Tadej Pogacar. Donc il pourrait rester Groschartner, Del Toro, Pogacar. Et Nils Poli, il est pas malade, mais c'est pas non plus le meilleur des grimpeurs. On sait pas trop où il va se situer s'il y a la grosse castagne au début. Donc très vite, il pourrait être esselé. Pour demain, je suis pas, entre guillemets, pas trop inquiet, parce que je suis pas inquiet du tout d'ailleurs pour Tadej Pogacar, mais je suis pas trop inquiet demain parce que ça va aller vite, ils vont avoir des alliés, enfin ça va aller vite, l'étape est courte, c'est plus facile pour eux de gérer une étape comme ça. Par contre, samedi, s'il y a une échappée devant, ça va être compliqué de faire le tempo, mais on a vu aujourd'hui qu'ils ont été aidés par d'autres équipes par rapport au classement général, qui défendent leur place. Red Bull Bora vont venir les aider aussi si Remco Evenepoel se glisse pas devant ou tente pas quelque chose. Je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir, mais ça va être compliqué. Et juste, Tim Wellens a fait une déclaration à la télé belge. Il a dit « Adam ne s'en sent pas très bien, moi non plus. J'ai mal à la gorge et les voies respiratoires encombrées. Plus de la moitié de notre équipe est encore en pleine forme. Chacun a sa propre chambre et dans le bus, les personnes en bonne santé et les malades sont séparés. Nous mangeons aussi chacun dans nos chambres. » Donc ils sont quand même bien isolés. Hein,
c'est
tous,
pas la colonie
mais dans le même. Non, mais c'est pour ça peut-être que Del Toro et Pogacar, si vraiment ça a été pris à temps et qu'ils sont isolés, ne seront peut-être pas touchés.
Dans le même temps, Machin a déclaré « Tim Wellens n'est pas malade, il est juste un peu fatigué. Ça ne servait à rien de rester
devant aujourd'hui, il fallait mieux qu'ils récupèrent.
Donc il faut aligner leur communication.
Aligner leur monteur. Ouais. Non, mais c'est ça. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on imagine, hein, mais... et puis il y a ce qu'on entend. Et justement, on va écouter Tadej Pogacar, traduit par Jérôme Pinot.
I mean, it sucks to lose Brandon really because
c'est triste de perdre Brandon aujourd'hui parce qu'il avait fait du super travail jusque-là. Mais Adam, ça arrive de nouveau. Il est de nouveau de mieux en mieux. Adam Yates. Hier, il a beaucoup souffert sur la route, mais aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Demain, c'est une étape plutôt facile pour Adam pour survivre et garder son énergie. Et par contre, j'espère qu'il sera de nouveau à bon niveau pour samedi, parce que samedi, je vais avoir besoin de travail, besoin de mes coéquipiers. Bah, la situation, elle est comme ça. On est tous un peu malades. Et les garçons reviennent plus ou moins bien de leur maladie. Mais bon, nous faisons ce que nous devons faire. Mais je pense que tout se passera bien et que nous allons survivre ces deux prochains jours.
Survivre, c'est le terme effectivement qu'il a employé.
De toute façon, il est tout seul avec Del Toro. On l'a bien vu aujourd'hui. Il y a Groschartner qui peut lui donner un coup de main éventuellement. Mais c'est pas Politz qui va monter l'école avec lui, quoique. Mais surtout, c'est la peur de la dégringolade qu'ils ont, je pense. Parce que quand il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, et ça peut arriver jusqu'à lui. Il n'est pas intouchable par les virus. Hein.
Je disais, Christophe, il y a ce qu'on entend et ce qu'on voit. Il nous dit Adam Yates va mieux, etc. C'est pas du tout l'image qu'on a eue d'Adam Yates aujourd'hui, qui est arrivé encore une demi-heure après la tête de course.
Oui, non. Wellens, on le rappelle, il arrive devant le camion balai. Yates qui récupère un coca et un peu d'eau et qui reste dans la pompa, évidemment, qui finit à son rythme. Non, mais en revanche, moi, je le trouve pas très inquiet quand même, Pogacar.
Ah ben non, il dit qu'il a hâte que McNulty se remette pour venir faire la fête avec lui à Paris.
Donc. Ah ouais, non, il est.
D'ailleurs.
Il check ses adversaires, il fait un hug à Carapaz à l'arrivée. Je veux dire, si
ils sont pas de masque,
s'il y avait vraiment d'une grosse inquiétude, il aurait certainement pas ce faciès-là et ces attitudes-là. Je le trouve très serein. Est-ce qu'il a besoin d'équipiers finalement, Pogacar? Oui. Est-ce qu'à lui tout seul, il peut pas gagner le Tour de France?
C'est une question qu'on posait après sa première victoire.
Ah bah lui tout seul peut-être, mais
il avait gagné tout seul.
Je vous rappelle que la mission de l'équipe maintenant, c'est de nous faire monter Del Toro sur le podium. Là, c'est pas la même.
Ah là, c'est pas la même chose.
Exactement. On va s'intéresser aux adversaires. Sur la stratégie éventuelle avec Léna Marjac qui nous a retrouvé. Léna, au plus près de l'équipe Décathlon CMA CGM. Bonsoir Léna.
Salut tout le monde.
Voilà, on précise que tu n'es pas avec nous, qui sommes dans la montagne là, tu es à un autre endroit et bien malgré tout tu as suivi cette étape et ce qui s'est dit dans cette équipe avant les deux grandes étapes alpestres encore, est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'on imagine la possibilité de s'attaquer un peu à cette équipe UAE?
Bah, c'est vrai que ce matin, au départ de l'étape, quand on parlait avec Julien Jourdi, le directeur sportif, il disait oui, on a bien vu que l'équipe UAE est pas en forme. Ça s'est encore confirmé aujourd'hui. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Donc il disait on pourrait faire quelque chose d'assez important aujourd'hui avant les deux grosses étapes dans les Alpes avec ces deux arrivées à l'Alpe d'Huez. Et finalement aujourd'hui, il sait pas du tout ce qui s'est passé puisque ils ont préféré finalement rester au chevet de Paul Sexas, leur leader. Et justement, à l'arrivée, Nicolas Prodhomme s'est exprimé sur ça. Est-ce qu'il aurait fallu attaquer UAE? Écoutez la réponse du coéquipier de Paul Sexas.
Quand on voit l'étape de samedi, on n'aura pas... Enfin, ça va se faire à la patte et voilà, il reste deux belles journées. C'est sûr que c'est pas la grande forme chez eux, mais on a vu qu'ils sont quand même, il y a encore Del Toro et Poggi qui sont là, donc c'est quand même deux gros clients.
Voilà, le message de la journée, c'était finalement de garder de l'énergie. Ça aussi, c'est ce qu'a dit Paul Sexas à l'arrivée. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intention finalement aujourd'hui de s'attaquer à UAE. Maintenant, à voir dans les deux prochaines journées, parce que là, ça va être très, très, très important pour l'équipe Décathlon CMA-CGM. Paul Sexas est quatrième. Le podium se rapproche. Le podium peut se jouer dès demain. Donc là, il va falloir voir ce que Décathlon CMA-CGM va décider. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'objectif, c'était clairement de garder de l'énergie pour les deux prochains jours.
Et il va en falloir. Merci beaucoup, Léna. On se retrouve évidemment demain pour cette belle étape qui nous emmènera du côté de l'Alpe d'Huez. La stratégie, justement, des adversaires, c'est l'objet du carton du jour.
RMC, l'After Tour, le carton.
Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, mon cher Richard, ont décidé de faire un carton en duo, jaune et orange. Tu pourras réagir après, tu nous diras si tu es d'accord. Un peu jaune-orangé pour les adversaires de cette équipe UAE.
Ah oui, jaune-orangé pour tous les adversaires, l'ensemble des adversaires. Attention, on ne vise pas une seule équipe.
Donc on met les Lidl Trek,
les Red Bull Bora et les Decathlon. Et quand on dit carton jaune, on dit avertissement. C'est vraiment ça.
C'est un jaune aujourd'hui qui pourrait tourner orange demain et rouge samedi.
Voire dimanche.
Un carton qui est peut-être évolutif.
Et violet lundi, parce qu'on aura des regrets. Parce qu'on aura des regrets lundi, peut-être qu'on aura des regrets parce que hier, on a vu des choses dans ce peloton. On a vu des coureurs de l'UAE malades. On a vu un Isaac Del Toro piégé en début d'étape. On a vu une situation où Del Toro s'est retrouvé à 40 secondes derrière le peloton. Aujourd'hui, on voit des coureurs du UAE malades. On avait un départ très difficile. Une étape qui était intenable, avec des groupes de partout. Pourquoi n'a-t-on pas tenté des choses collectivement de la part des Bora, des Lidl Trek et des Decathlon ? On entend depuis le début du tour, ils sont trop forts, ils nous tapent dessus toute la journée, on n'a pas le droit de s'exprimer, ils veulent tout gagner. Là, ils sont malades, ils ont un genou au sol et on les attaque toujours pas. Ben moi, je suis désolé, sur ce genre d'étape, aujourd'hui, avec des rouleurs, avec des Danouleux, des Derek G, des coureurs de chez Bora avec Cataneo par exemple, il y a moyen de les mettre en difficulté. Parce que si on élimine les malades et les boiteux, McNulty dehors, Politz qui roule, il pète, Vermeersch, il pète, oui. Wellens, il pète, il ne reste plus que trois coureurs. Et si là on joue la guerre contre eux, on peut peut-être déstabiliser cette équipe. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que si on n'essaye pas, on ne saura pas. Et peut-être que lundi, on se dira, ah mince. Et peut-être que la semaine prochaine, on entendra, ah ben Isaac, la journée là, à Voiron, il était limite à péter. Mais Tadej, le jour de l'étape de Orcières-Merlette, le matin, il fait cacamou. Mais ça, on le saura peut-être qu'après. Si on teste pas, on peut pas savoir et donc on peut pas se plaindre.
Comme l'année dernière, on a su que Tadej Pogacar avait mal au genou.
Ouais, on a su qu'après le tour, il a bien bluffé. On se demandait pourquoi il attaquait pas. Il n'y a pas eu d'attaque non plus de ses adversaires l'année dernière. Peut-être que s'ils avaient essayé, ils auraient vu que Tadej Pogacar était pas si bien que ça finalement. En fait, Tadej Pogacar domine tellement, il est tellement rentré dans la tête de ses adversaires et de toutes les équipes, il leur fait tellement peur qu'on n'ose même plus. Rappelez-vous simplement Milan-San Remo cette année. Il chute Tadej Pogacar, il se passe rien dans le peloton. Ils sont un peu perdus, ils se demandent ce qu'il faut faire. Les adversaires, je parle. Oui. Les adversaires demandent ce qu'il faut faire parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ne pas avoir Pogacar et UAE en train de dicter ce qu'il faut faire dans le peloton. Alors oui, on va nous dire c'est facile, vous êtes assis dans votre camion en train de commenter la course de vélo. C'est vrai que c'est difficile.
On peut leur dire aussi, regardez Lidl Trek, nous on est assis, on regarde Lidl Trek, ils en mettent partout sur la route. Mais ils peuvent pas faire attaquer Ayuso aujourd'hui, mettre Ayuso devant,
voilà.
Et puis laisser faire UAE.
Alors pour moi, c'est ils typiquement ont une aujourd'hui... C'est sur eux que je vais mettre l'accent par rapport à Pogacar. Je parle même pas de la stratégie et des déclarations de Quinn Simons qui a dit la stratégie, si vous avez des questions, demandez à ceux qui me payent. Moi, je suis payé, je fais ce qu'ils me disent. Donc, il n'est pas trop d'accord avec la stratégie. Mais aujourd'hui, tu as Ayuso et Skelmose. Tu en as deux. Ça ne coûte rien d'essayer d'en lancer un des deux aujourd'hui pour voir ce que ça donne déjà. Et même, ça aurait fait effet boule de neige. D'autres, peut-être Paul Sexas, y serait allé, etc. Et tu aurais pu lancer la course. Ils vont faire quoi? Ils vont arriver, ils vont tenir comme ça, ils vont faire 5e et 6e du tour ou 6e et 7e du tour. Je pense qu'à part des points UCI, je vois pas ce que ça pourrait leur apporter.
Mais je suis d'accord avec toi. Moi, demain, dans le Bayard, je veux que ça soit la bagarre. Dans le Perrier, je veux que ça soit fou. Je veux revivre le Granon avec des attaques de partout.
Il passe pas dans Richard, le Perrier, passe dans le Noyer.
Le Perrier, c'est le sprint. Ouais. Le Noyer, avant. Le Perrier, ça sera fou, mais ça sera plus tard. Richard, il faut mettre le bazar demain.
Oui, demain et après-demain. Mais c'est vrai que demain, ça s'y prête vraiment bien. Et par contre, un départ violent, on peut imaginer un certain Del Toro pété. Et là, ça peut Paul Sexas peut voir ça et derrière, ça peut enclencher. Et voilà. Et après, derrière, il y a la course qui est lancée. Mais aujourd'hui, c'était entre deux. Demain, l'étape demain après-demain, c'est super dur. Donc il y a vraiment le quoi attaquer sans vouloir attaquer le maillot jaune. À un moment, le maillot jaune va se retrouver dans une situation. Ah! t'es tout seul, toi. Ah ben, si on te faisait la peau. Donc c'est voilà, il va et après il y a aussi le côté météo aussi qui peut rentrer en ligne de compte l'étape d'après de samedi avec l'ascension de l'Alpe d'Huez, la descente, tout ça. Je prie pour qu'il y ait pas de la pluie parce que si c'est le cas, ça va être très compliqué hein de passer au travers une gamelle. Donc je pense qu'il y a tellement d'opportunités là dans les deux jours qui suivent, il y a forcément des choses qui vont se passer et la course elle va être passionnante, ça c'est sûr.
Très bien, merci Richard, on se retrouve dans un instant, fin de l'After Tour avec les auditeurs qui au 32-16 vont pouvoir vous poser des questions, à tout de suite.
RMC, 19h-20h, l'After Tour,
Pierre-Yves Roux. Allez, on est reparti pour la dernière ligne droite, le sprint final de l'After Tour avec nos consultants Richard Virenque, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et les auditeurs au 32-16. Et tout de suite, Vincent qui nous appelle de Gironde, je crois. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent.
Oui, vous m'entendez?
Salut Vincent. Oui, on t'entend très bien. Parfait. Je te laisse avec nos consultants. Tu peux donner ton avis sur ce Tour de France, sur cette étape du jour et leur poser éventuellement une question.
Bah, l'étape du jour, une grande équipe IF qui sait ses objectifs et qui les a réalisés et qu'on voit très dynamique. Ça fait bien d'avoir une équipe qui essaye de jouer la gagne. Carapaz, deux attaques exceptionnelles sur la fin de course. On a l'impression qu'il est sur le plat à la fin, alors que ça doit monter et que ça roule super vite. Et puis les leaders qui attendent l'Alpe d'Huez ou qui attendent lundi pour se dire que il faudra attaquer pour essayer de tenter quelque chose. Donc
on profite.
Ben oui, mais ça arrive souvent. Vous savez, les courses qui se refont le lundi en disant mais si j'avais su, j'aurais attaqué. Mais non, c'est une étape. Celle d'hier était magnifique. Celle d'aujourd'hui est dans un autre style, mais avec un vainqueur qui donne envie de regarder le tour parce que c'est ça le tour. Ça doit donner envie, du punch. Et puis un Paris-Peintre qui joue son va-tout, non, c'est génial. Mais c'est vrai qu'on se demande si quand on voit le UAE qui est diminué, si à un moment donné on va essayer de tenter quelque chose ou si on en a toujours peur. Donc voilà, c'est dommage. Ou est-ce que les places sont déjà figées? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser.
Richard, est-ce que les places sont déjà figées? Est-ce que cette étape, cette grosse étape de samedi, peut faire peur et puis faire un petit peu pchit aussi? Ça arrive des fois.
Non, moi je pense que l'étape de demain elle va pas faire cheap, hein. Ça va faire boom. Et je suis persuadé que dans la tête de Paul Sexas, il doit se dire je vais, parce qu'il est jeune, il a la fougue et il a une équipe assez solide autour de lui. Je suis sûr qu'il va tenter quelque chose et mettre je sais pas Pogacar pas en difficulté, mais il y a quelque chose qui va se passer parce que un, le parcours s'y prête, deux, il est au pied du podium et il sent que s'il allume une mèche, ça, même si elle lui pète à la figure, il aura quand même son tour réussi. Donc rien que déjà cette équipe là je pense, et le parcours, quand on voit le parcours, le col Bayard, ça sent les embrouilles, mais vraiment hein. Donc je pense que ça soit les non grimpeurs demain, ils vont pas bien manger ce soir, ils vont mal dormir, et ceux qui sont en forme, ils vont se dire tiens, demain il y a quelque chose à faire, et mais c'est demain plus qu'après-demain, parce que après-demain c'est un chantier, c'est-à-dire on part, on sait même pas qu'est-ce qui va se passer quand on fait 5000 mètres de dénivelé. Je sais pas si vous imaginez, il va y avoir des échappées, il va y en avoir de partout, des crevaisons, des chutes, ça va être où ASO, il réduit l'étape en un seul passage, on va dire comme ça, à l'Alpe d'Huez, et là ça va rassurer beaucoup de monde. Mais si c'est pas le cas, moi je peux vous dire il va se passer beaucoup de choses.
Ça peut arriver hein, effectivement, si la météo jouait des tours à l'organisation. Jérôme, tu penses que ça peut être figé là, c'est figé, ou bien comme Richard, il va se passer des choses et notamment une attaque de Paul Sexas?
Figé non, parce que les étapes sont tellement difficiles qu'il peut y avoir des convenus hein, des garçons qui craquent, mais je vois pas d'attaque de Paul Sexas à prendre tous les risques. Rappelons quand même que l'objectif du début de tour, puisqu'il a été dit il y a pas si longtemps, c'était un top 5, il y est, et donc ça ils veulent pas le perdre. Ils prendront le risque pour le podium que si derrière ça a coincé, donc Ayuso et un peu plus loin Skelmoseux. Tant que ces deux garçons-là sont encore dans le coup, ils prendront pas le risque de perdre. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, ça va dépendre du rythme donné à l'avant de la course et du scénario de la course qui va être prépondérant et notamment de la forme de Pogacar. Si Del Toro est au niveau de suivre Pogacar, bon, ils auront beau essayer d'attaquer, ça ne va pas faire grand-chose.
Merci beaucoup Vincent, voilà tu as les réponses de nos consultants et on espère comme toi évidemment qu'il va y avoir du mouvement. Et François nous appelle au 32-16, bonsoir François.
Bonsoir l'équipe.
Salut François.
Allez, je te laisse avec nos consultants, je te laisse poser ta question et peut-être que tu as des pronostics qui sont pas tout à fait à l'avantage des Français sur les dernières étapes, j'ai l'impression.
Ouais, moi, mon conseil initial, c'était quand même une petite frustration sur la régularité de certains coureurs. Côté français, on a Kevin Vauclin qui un peu en est la preuve aujourd'hui. L'année dernière, il est dans le top 10. Là, il finit quand même très loin. Ok, crevaison, ok, mauvaise préparation.
Il est malade. Il est malade.
On est quand même sur un, oui, mais on est quand même sur un constat d'échec. Historiquement, on a aussi du Pierre Roland, du Warren Wargill, du Godu qui ont jamais fait plus du top 10 2-3 années d'affilée. Mais après c'est pas un phénomène franco-français dans le sens où on a aussi du Sepkoski qui en top 10 il n'arrive pas non plus à perdurer dans les années et j'ai du mal à comprendre comment certains arrivent à faire 10 ans au top. Certains, ils font un tour et terminé bonsoir, il n'y a plus personne. Et c'est un peu ça mon constat d'analyse, c'est comment les mecs, ils pourraient plus être performants sur la durée et sur des années. Quoi. On parle d'un sport à maturité tardive. Tu regardes Jega qui fait deux années dans le top 10. Lui, il arrive 23 ans après Nantes, toute sa formation à Nantes. Il arrive très tard en pro. Il arrive quand même à performer deux années de suite et à mon avis il a encore un grand avenir. Mais quid de cette régularité dans la performance de nos Français ou d'autres quoi.
Eh bien, Jérôme Coppel te répond.
Moi je te trouve un peu dur pour le coup parce que alors oui Kevin Vauclin l'année dernière il fait 7e du Tour cette année alors il a changé d'équipe, faut t'adapter à la nouvelle équipe, il est arrivé malade avant le Tour, il a pas pu faire les championnats de France. Donc on sentait venir un peu la contre-performance de Kevin mais on sentait qu'il allait pas jouer le général en plus des crevaisons dont tu as parlé. Après cette année on a 3 Français dans le top 9 pour le moment, ça doit faire sacrément longtemps qu'on n'a pas eu ça. Jordan Zegat, tu l'as dit toi-même, il fait déjà top 10 l'année dernière, donc la régularité elle est là. Et top 10, les autres coureurs qui jouent les étapes, eux c'est un jour tu vas devant, si t'es devant tu joues l'étape, et le lendemain si tu rates l'échappée, le but du tour c'est aussi de t'économiser pour pouvoir rejouer une victoire d'étape plus tard. Lenny Martinez, c'est la première année qu'il joue vraiment le classement général sur le tour, et pour l'instant il est 7e. Avant il jouait le maillot à poids, ou la première année chez Groupama FDJ il est arrivé complètement carbo avant le tour, donc pareil, on sentait venir un peu sa contre-performance. Et faut après la régularité pour moi, ou là où je te rejoins pas, c'est qu'elle est pas sur le Tour de France uniquement. La saison cycliste se résume pas au Tour de France, c'est sur l'ensemble de l'année. Et je trouve que depuis le début de l'année, et même sur ce Tour avec les 3 Français qu'on a dans le top 10, je trouve que niveau régularité, ils sont plutôt pas mal. Parce que Lenny Martinez, il marche depuis le début de l'année. Paul Sexas aussi, il marche depuis le début de l'année. Jordan Zegat, c'est un peu différent. Elle a repris sa saison très tard à Classique Grand Besançon à la Coupe de France il y a pas si longtemps que ça parce qu'il a été blessé. Donc je trouve que pour le coup je te rejoins pas moi François, je suis pas de ton avis.
Ouais, mais François il est sans doute comme moi, il aurait voulu avoir une victoire d'étape. Merci beaucoup François, ça va venir demain. Tiens justement, il nous reste 10 secondes. Merci beaucoup François de nous avoir appelé au 32-16. 10 secondes, un nom chacun pour la victoire de demain.
Lenny Martinez
pour Jérôme Pinault.
Demain Tadej Pogacar
pour Jérôme Coppel. Richard Virenque, tu nous dis quoi?
Valentin Paré-Peintre.
Oh on a 2 victoires françaises, c'est pas beau ça. Merci beaucoup Richard, merci les GG. On se retrouve demain pour l'intégral tour et évidemment pour l'after tour entre 19h et 20h. Dans un instant, c'est l'after foot avec Simon Dutin. À demain, ciao.
RMC, l'after tour.